Micro-ondes, l'émission en direct de Radio Royan-Vercors. À écouter chaque jeudi de midi à 13h et en rediffusion le vendredi soir à 19h. Invité au micro, actu locale, agenda culturel et coup de cœur de la rédaction. Micro-ondes, promis, c'est pas du réchauffé.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Royan-Vercors 93 FM. Nous sommes en direct en ce jeudi 9 avril, il est midi. Et vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle émission qu'on vous propose aujourd'hui sur Radio Royan-Vercors, une émission en direct que vous allez pouvoir retrouver donc chaque jeudi de midi à 13h, en rediffusion le vendredi à 19h. Et ça sera mis en ligne sur notre site internet, vous pourrez le réécouter quand vous voulez. Le concept de cette émission, c'est de parler de l'actualité du Royan, du Vercors et du Sud Grésivaudan avec des invités à nos micros. Alors aujourd'hui, je vous spoil un peu, j'ai 3 invités pour cette première émission et donc de discuter de ces actus, de différentes thématiques qui animent notre territoire. On va également faire un agenda culturel à la fin de cette émission. Et puis, juste avant l'agenda, vers 12h45, on vous proposera à chaque fois soit une chronique coup de cœur, soit une chronique enregistrée, donc littérature, exposition, médias, en fonction des différentes actus. Cette émission, elle sera présentée par les différents salariés de Radio Royan-Vercors. Donc aujourd'hui, c'est Charlène au micro. Et puis vous deux, la semaine prochaine, vous retrouverez Céline. Et puis après, ça s'enchaînera avec Anouchka et Patrice qui sont actuellement en régie. Il y a toujours Gaël également en régie. Et Jean-Claude qui est membre du CA, qui est là également pour cette première émission. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Et donc, pour cette première émission, on va parler d'alimentation. Et pour en parler, donc j'ai autour de moi le collectif, plusieurs membres du collectif du Courbouillon. Tout d'abord, bonjour Mila.
Bonjour.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Charlène.
Et bonjour Hugues.
Bonjour.
Alors, je vais faire une petite introduction sur ce que c'est que ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Et puis après, on va pouvoir passer à la présentation de votre collectif et puis de vous, de qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et donc, on va parler d'alimentation. Et aujourd'hui, c'est un véritable sujet de société. L'alimentation, c'est un sujet donc qui interroge nos modes de vie, nos manières de produire et de consommer. Mais aussi, ça interroge des questions de justice sociale et de gouvernance démocratique. Car nous ne mangeons pas toutes et tous de la même façon. Et ces différences, eh bien, elles révèlent souvent des inégalités profondes et parfois invisibles. Et donc, si on associe fréquemment la précarité alimentaire au milieu urbain, eh bien, les territoires ruraux, ils sont pas épargnés. Derrière l'image d'une vie proche de la nature ou d'un accès facilité à la terre et d'une forte entraide locale, eh bien, il y a parfois d'autres réalités qui sont cachées, comme l'isolement géographique, les difficultés de mobilité, le manque de services de proximité ou encore des difficultés à exprimer ses besoins dans des espaces où l'anonymat, eh bien, il n'existe pas. Et donc ici, dans le Royan, comme ailleurs, ces vulnérabilités, elles existent. Et donc, face à ces constats, bonne nouvelle, il y a des solidarités alimentaires qui s'organisent et qui se réinventent. Et donc, en effet, à côté des dispositifs un peu plus institutionnels, comme les épiceries de la Croix-Rouge, par exemple, on voit émerger des initiatives locales qui sont fondées sur l'entraide, le partage et l'implication directe des habitants. Donc, on peut citer le glanage, le troc, le don, les ateliers collectifs, ou encore des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, ces démarches, elles sont souvent collectives et participatives, et elles cherchent à redonner du pouvoir d'agir aux personnes et à construire des réponses adaptées aux réalités de chaque territoire. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce collectif du Courbouillon, puisque vous avez récemment coordonné le lancement d'une caisse locale de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt territoire Royan et Sud Grésivaudan, et on va s'attarder là-dessus en deuxième partie d'interview. Et donc moi, je suis ravie de vous recevoir parce qu'on va essayer de comprendre ensemble comment, concrètement, ces nouvelles formes de solidarité, eh bien, elles prennent vie, comment elles fonctionnent et comment elles participent à transformer notre rapport à l'alimentation. Et donc, tout d'abord, peut-être Hugues, je voulais que tu te présentes et que tu peux, peut-être que tu présentes le collectif aussi. On peut faire un petit tour de table aussi de présentation de chacun, chacune, de ce que, qui vous êtes et ce que vous faites dans le collectif.
Eh bien, d'abord, merci de nous inviter quand même, Charlène. C'est vraiment super pour cette première émission d'être là avec vous et pour parler d'alimentation avec mes comparses. Peut-être juste pour rappeler que le Courbouillon, c'est une asso qui prend part à plusieurs projets sur le territoire et donc qui co-porte avec plusieurs collectifs, fermes, mais aussi centres sociaux, institutions, des projets autour de l'alimentation. Et peut-être rapidement rappeler l'origine de cet asso. Donc, c'est une aventure qui débute en 2023 quand la mairie de Saint-Marcellin lance un appel à projet pour récupérer un local commercial sous la mairie. Il y a une envie qui se forme auprès des habitants. À peu près 300 habitants rejoignent une petite équipe pour construire une coopérative. Et c'était l'intention initiale de monter un supermarché coopératif, donc une idée un peu farfelue au début, mais qui était comment reprendre la main sur son alimentation. Donc c'est vraiment ce qu'a essayé de mettre en place le collectif. Malheureusement, c'est un échec. On n'a pas été tellement découragés, mais finalement la mairie a choisi d'installer Carrefour City à la place, ce qui en dit quand même long. Ouais, mais qui nous a vraiment conforté dans le constat qu'on avait à la base, qui était que les habitants et les habitantes n'ont pas tellement la main sur la construction du paysage alimentaire, ce qui nous entoure. En gros, on n'a pas la main dessus, on le décide pas quoi. Donc c'est là-dessus que l'asso elle s'est fondée, et c'est à partir de là que le Courbouillon a mis en place une démarche qui se positionne aujourd'hui plutôt sur trois axes autour du militantisme pour le droit à l'alimentation. Il y a vraiment cette envie sous-jacente de travailler avec tous ceux qui sont concernés pour choisir son alimentation. Il y a un travail autour de l'expérimentation, le droit à l'expérimentation sur des projets d'intérêt général. Et puis, il y a aussi une dimension toujours d'entrepreneuriat collectif et coopératif qui est important pour nous. On a aussi quand même une boussole ou quelque chose qui nous guide. Il y a un peu cette envie d'aller vers un bien-vivre alimentaire sur le territoire. Et ce bien-vivre alimentaire, c'est plutôt quelque chose de global, de politique. En fait, on n'est pas sur une approche de manger moins pour moins cher ou manger bio. C'est vraiment de dire que entre guillemets, les habitants et les habitantes ne sont pas juste des consommateurs qu'on doit éduquer, c'est vraiment des acteurs politiques qui peuvent reprendre la main et influencer le système alimentaire. Et puis peut-être dernier point à discuter, ou en tout cas qui constitue l'asso, c'est en gros la chance qu'on a d'habiter sur un territoire rural avec une grosse densité quand même de producteurs et productrices avec des pratiques en agroécologie. Et ça, pour nous, c'est assez important parce que ça dit que cette agroécologie, en fait, elle fait sens que si elle sort des fermes. Il y a l'idée que ce soit à la fois des pratiques techniques, mais aussi que ce soit un mouvement social. Ça, c'est assez fondateur dans le Courbouillon, c'est de dire comment on fait sortir l'agroécologie comme projet politique des fermes. Voilà.
Et donc, il y a un rapport au terrain aussi qui est assez fort dans votre asso. Et donc, autour de la table, comme je disais en introduction, il y a d'autres personnes. Il y a notamment toi, Mila. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au sein de cette association ?
Oui, donc je suis stagiaire au sein du collectif pour une sécurité sociale alimentaire spécifiquement, dont fait partie aussi le Courbouillon ainsi que le centre social La Paz avec lequel je travaille beaucoup et Terro Loco. Donc je suis stagiaire dans le cadre de mon master qui s'appelle Transition écologique et proposé par Sciences Po Grenoble. Et donc, étant passionnée par les sujets agricoles et alimentaires, et notamment aussi de liens entre la durabilité, mais aussi la justice sociale, je me suis intéressée assez vite, il y a quelques années, à la sécurité sociale alimentaire, notamment. Et voilà, donc je suis un appui au collectif sur plusieurs tâches. J'essaie aussi de prendre un peu de recul et de faire de la recherche, de faire des entretiens pour voir où est-ce que le projet se situe dans le territoire et quels sont les acteurs avec lesquels le Courbouillon ou le collectif SSA en général avec lesquels ils dialoguent. Donc voilà.
Et on va justement s'attarder un petit peu sur l'aspect recherche juste après, et puis on va dédier la deuxième partie de cette interview à cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Et la troisième personne au micro, c'est Annabelle. Salut Annabelle.
Bonjour.
Et donc toi, voilà, t'es là aussi parce que tu fais partie de cette association. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais ?
Oui, alors moi, je suis aussi, j'ai un peu une double casquette aussi dans le projet parce que je suis paysanne maraîchère à Saint-Jean-Royan. Et bénévolement, j'ai eu envie de faire partie du comité citoyen qui gère la caisse de sécurité sociale de l'alimentation. En fait, ça fait plusieurs années que j'entendais parler des projets de sécurité sociale de l'alimentation un peu à diverses échelles aussi au niveau national. On avait fait aussi à la ferme, on avait eu un festival aussi autour de l'alimentation où il y avait eu des intervenants il y a quelques années. Et là, depuis 2 ans, bah, ça s'est un peu précisé avec des événements grand public qu'on a animé sur le territoire avec la Grande Nappe à Saint-Nazaire, plusieurs événements qui ont parlé de l'alimentation, et on a fait venir des intervenants pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et là, bah, depuis le mois de décembre, la création de la caisse, bah, c'est un peu un petit aboutissement du projet sur le territoire. Et du coup, là, ben, voilà, je fais partie de la quinzaine de personnes qui fait partie du comité citoyen de la nouvelle caisse.
Ouais, donc on voit que ça brasse quand même assez large, ce collectif. Là, tu parles d'une quinzaine de personnes dans ce comité citoyen. Il y a un aspect recherche. Vous parliez du centre social La Paz, de terreaux locaux. Comment est-ce que vous avez réussi à mailler des liens avec tous ces acteurs du territoire? Parce qu'en fait, il y a aussi cette question, il y a un croisement entre la question du lien social et de la production alimentaire et de la distribution alimentaire, quoi.
Alors comment, moi j'ai un début de réponse, c'est peut-être aujourd'hui par le faire, par ce qui a été bâti sur le terrain, qui nous a finalement imposé de coopérer les uns avec les autres et d'apprendre à discuter de nos enjeux respectifs. Et je reviens un peu sur les actions de terrain, justement c'est à la fois un collectif de glanage qui s'est formé, qui a permis de créer un réseau avec des paysans paysannes. Aujourd'hui c'est à peu près une quinzaine de fermes avec qui on a des échanges récurrents et une possibilité d'aller au champ, mais du coup des apprentissages respectifs. Il y a typiquement l'idée d'un portage d'un groupe d'achat, et du coup ça aussi ça nous a mis en lien avec des productions locales et l'idée de les rendre accessibles au plus grand nombre sur le terrain. Et puis il y a autre chose un peu connectée quand même à la démarche de la SSA, c'est de la recherche au sens recherche-action, avec du coup des dialogues avec des institutions pour essayer de comprendre aussi comment on peut faire une politique publique ascendante, en tout cas en passant par les habitants et les habitantes. Donc ça nous a créé un écosystème comme ça, même avec les réseaux de redistribution du glanage. Du coup c'est les structures d'aide alimentaire, terres locaux qui a des actions aussi, comme le disait Mila tout à l'heure. C'est vraiment un réseau très pluriel. Ouais.
Et justement, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur ce glanage, le glanage organisé. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que le glanage?
Bah, moi, par exemple, à la ferme, je sais que des fois, on a des surplus de légumes. On se dit, ah ben ça, on n'aura pas les débouchés, des salades, des choses qui... Là, au printemps, par exemple, des poireaux qui vont bientôt monter. Eh ben, j'appelle Vanessa au centre social La Paz et je lui dis, là, bah, j'ai... potentiellement 5 caisses de poireaux à venir cueillir. Les gens peuvent venir mardi, mercredi, jeudi. Je peux accueillir 3 ou 4 personnes. Et après, elle relaie l'info à une cinquantaine de personnes qui sont inscrites sur une liste sur le territoire. Et en fonction des dispos, elle dit aux gens, elle cale un rendez-vous. Elle dit aux gens, prenez vos cagettes, vos couteaux. Et elle s'occupe aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Soit ça va à la cantine, il y a un repas prévu pour un événement, soit effectivement ça va à l'aide alimentaire, soit à l'épicerie sociale, au Resto du Cœur à Saint-Jean, ou aussi s'il n'y a pas trop de débouchés, ben ça peut aller juste, il y a une personne qui habite dans les HLM qui les met en bas des cages d'escalier et ça part aussi comme ça. Enfin voilà, donc moi j'envoie juste un message et après j'accueille les gens et je leur montre où sont les légumes. Et c'est assez chouette de voir que nous on évite de gaspiller, de broyer, et puis ça fait plaisir et les gens en général ils sont contents de venir voir le jardin, enfin on se rencontre quoi. Et parfois aussi ils nous aident parce qu'ils ont fini leur glanage et après ils nous disent si vous voulez on fait autre chose. Enfin, voilà, des fois on mange ensemble le midi. Enfin ça fait vraiment un chouette. Moi je suis très contente que ça existe. On les fait venir 5 ou 6 fois par an, mais c'est vraiment chouette.
Et donc là, on a l'exemple de toi en tant que paysanne. Tu sollicites le centre social de La Paz, donc c'est vraiment cet acteur qui articule tout ça. Ça vient tout le temps des paysans, des paysannes, cette potentialité du glanage. Est-ce que voilà, maintenant tout le monde est au courant et ils appellent le centre social, ou est-ce qu'il y a encore une démarche de faire connaître?
Comme tu le sais, le territoire est grand, puisque quand on parle du sud Grésivaudan et du Royan-Vercors, ça amène quand même vraiment à un très grand territoire. Donc en fait, il y a 2 acteurs qui jouent en miroir. Il y a à la fois le Courbouillon côté sud Grésivaudan qui fait le relais, et à la fois le centre social La Paz côté Royan-Vercors, et nous on se coordonne. Et là aujourd'hui, l'impulsion elle vient quand même plutôt des fermes, mais par un lien récurrent. En fait, on essaye de s'appeler, de s'envoyer des SMS pour savoir ce qu'il y a au champ, est-ce qu'il y a des choses qui sont à glaner ou pas en fait. Donc c'est plutôt un lien quand même qui vient des fermes.
Et donc, combien il y a de fermes là qui sont partenaires de ce réseau de glanage? Vous avez une idée, quelques chiffres en tête?
Ouais, je disais 12, entre 12 et 15, ça varie okay. un peu. On a quand même aussi malheureusement perdu une ferme, deux fermes. On a Cécile et Claude à Saint-Véran qui ont arrêté. On a Igor Aprel qui a arrêté. Et du coup, ça amène aussi à ce constat de comment on devient solidaire en tant qu'habitant avec aussi les fermes qui produisent pour nous.
Ouais, ça permet aussi de créer du lien social autour de cette activité. Voilà, on se retrouve au champ et on devient aussi un peu acteur, on se rencontre, on fait une activité ensemble. On découvre, comme tu le disais Annabelle, les paysans, les paysannes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus des glanages là? Vous avez des dates en banque?
Ouais, en ce moment, on glane beaucoup, beaucoup de poireaux.
Okay.
Il y a un énorme surplus de poireaux. On est presque à 500 kilos de poireaux glanés sur les deux dernières semaines. Et il y a encore une prévision. Demain matin, on se retrouve au champ à Saint-Pierre-de-Chérennes pour aller glaner quelques poireaux. C'est déjà un peu booké. Il y a le nombre de personnes suffisant pour aller glaner. Mais par contre, si vous voulez des infos, vous pouvez les trouver sur le site du Combouillon.
Ouais, ça, on va pouvoir s'attarder, notamment en fin d'émission. On va remettre toutes vos coordonnées. Mais s'il y a des habitants, habitantes qui sont intéressés pour filer la main, pour s'inscrire dans ce réseau de glanage, est-ce que c'est encore temps ou est-ce que vous êtes complet là au niveau des bénévoles?
On n'est pas du tout complet, hein. Vraiment, il y a encore vraiment la porte est ouverte. Venez nombreux et nombreuses. C'est juste qu'effectivement, il faut qu'on rentre dans le petit processus que disait tout à l'heure Annabelle, à savoir soit contacter le Courbouillon ou soit le centre social La Paz.
Et maintenant sur l'aspect recherche, ça c'est quelque chose que j'ai vu sur votre site internet et tu l'as introduit tout à l'heure Mila, il y a quelque chose que vous appelez le labo citoyen et toi dans ton travail tu disais que tu voulais aussi faire des entretiens pour aller un peu récolter de la donnée. Est-ce que vous pouvez me détailler cet aspect recherche, en quoi c'est pertinent et intéressant de faire de la recherche sur le terrain?
Peut-être que je peux introduire et puis Mila, tu prends la suite sur ton travail à toi. L'idée de l'action de recherche, c'est déjà de ne pas être uniquement dans la recherche académique, mais plutôt dans une recherche-action, donc vraiment connecté au terrain et de voir en fait ce que ça peut apporter en prise de hauteur sur ce qu'on mène aujourd'hui dans toutes les actions qu'on a décrites depuis tout à l'heure. Et il y a vraiment l'idée de sortir ces formes d'innovation sociale d'une erreur statistique. Il y a l'idée aussi de voir à quel point c'est fécond, à quel point ça porte des imaginaires, mais à quel point ça fait preuve de solidarité ou d'auto-organisation par les habitants et habitantes. Et donc là, il y a plusieurs projets qui sont soutenus, notamment par l'ADEME et par un projet européen qui s'appelle Allfax et qui atterrissent sur le territoire pendant les trois prochaines années avec une première année là qui vient de s'écouler avec l'idée de se former collectivement. Et donc, c'est un peu le parcours de formation qui a eu lieu dans la caisse SSA, là.
Et donc, cette formation, c'est pour que vous puissiez être un peu plus alerte et outillé dans cette démarche de recherche-action?
Il y avait surtout l'idée de faire en sorte que les habitants qui contribuent à cette caisse aient un langage commun sur la démocratie alimentaire, sur les notions d'agroécologie. On a eu des formations par des paysans et paysannes. Annabelle a contribué à ces formations. L'idée, c'était vraiment de créer un socle commun de connaissances. Et du coup, ça, c'est juste la manière de débuter pour apprendre à se parler et du coup ensuite à faire des projets collectivement.
Et Mila, toi, tu disais que donc tu es stagiaire à Sciences Po. C'est des sujets qui aujourd'hui quand même c'est étudié par la recherche académique, il y a plein d'autres territoires qui se lancent dans des aventures de sécurité sociale de l'alimentation, qui commencent à interroger voilà, c'est quoi ces inégalités alimentaires, les paysages alimentaires de chaque territoire. Est-ce que toi le fait de venir sur le terrain, ça vient un peu faire écho des fois? Est-ce que tu vas dans des papiers scientifiques lire des choses? Est-ce qu'il y a des allers-retours comme ça qui se créent entre le terrain et la recherche?
Oui, c'est sûr, toujours. Et c'est d'autant plus intéressant donc d'avoir un stage qui, en effet, me permet d'avoir non seulement le volet recherche un peu plus solitaire, un peu plus théorique, et le volet aussi pratico-pratique de comment marche un comité citoyen, comment, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir de l'intérieur un petit peu, mais aussi de l'extérieur, l'expérimentation SSA Bourg-Nisère avec toutes ses spécificités, qui à la fois se recoupe avec un peu le projet au niveau national. Et il y a quand même des points communs entre cette caisse et les autres cinquantaines de caisses qui existent en France maintenant. Donc c'est très intéressant de voir des socles communs, mais c'est aussi intéressant de voir les débats qui surgissent au niveau territorial. Donc au niveau de la caisse SSA Bourg-Isère, on aura des spécificités qu'à Grenoble, par exemple, là où je vis, il n'y a pas. C'est des territoires complètement différents avec des enjeux différents. Donc ce qui est intéressant de la recherche, c'est que ça me permet de prendre du recul, de voir à la fois les socles communs entre toutes ces expérimentations, voilà, les valeurs communes qui sont un peu partout dans toutes les expérimentations locales, mais à la fois les criticités, disons les problématiques locales, les enjeux locaux. Et donc oui, c'est très intéressant d'avoir les deux.
Et dans ce volet-là, donc tu parlais de petits entretiens, donc j'imagine que il y a un intérêt à discuter avec les bénéficiaires, mais est-ce que tu vas aussi voir des institutions, des élus techniques ou politiques peut-être du territoire? Est-ce qu'il y a un enjeu à aller voir un peu comme ça tous les acteurs?
Oui, bien sûr. En fait, ma recherche, qui est assez courte, parce que malheureusement le stage il se termine bientôt, c'est 4 mois de stage, mais ça me permet quand même d'essayer de faire une cartographie des acteurs qui sont impliqués dans ces initiatives de démocratie alimentaire sur le territoire royen Sud-Grésivaudan. Donc, je vais pas vraiment voir les bénéficiaires de la SSA, c'est pas tellement de tirer un bilan de cette expérimentation, c'est plutôt de voir plus large, de prendre du recul et de voir justement les institutions, les associations, les producteurs, les structures d'aide alimentaire, toutes vraiment les structures au niveau à la fois associative, institutionnel, privé, public, qui vont faire partie de cet écosystème alimentaire, de démocratie alimentaire. Justement, donc je suis allée voir bien sûr les Comcom, les communautés de communes Royan-Vercors, mais aussi Saint-Marcellin-Vercors, Isère Communauté, les deux départements, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est à cheval entre Isère et Drôme, les chambres d'agriculture. Donc oui, c'est plutôt des structures publiques et privées que je vais voir, et pour voir lesquelles sont impliquées en général, de manière directe ou indirecte, dans des initiatives de démocratie alimentaire, que ce soit la SSA, Sécurité sociale alimentaire, mais aussi le glanage, les marchés trois prix. Il y a plein de manières d'essayer de faire de la démocratie alimentaire.
Et justement, là, on est du coup à un moment où c'est encore assez récent, assez frais sur le territoire. Est-ce que vous avez déjà un petit ressenti sur... Il y a une émulsion qui est en train de prendre, il y a des acteurs qui sont en train de se fédérer, qui sont sensibles aux questions, ou alors plutôt c'est laborieux, il faut convaincre, il faut expliquer. Est-ce qu'il y a un petit ressenti là-dessus et peut-être même des nuances entre Drôme et Isère, je sais pas. Alors on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais juste un petit son de cloche pour voir si ça prend et on est plutôt sur une locomotive ou sur un TGV, quoi.
De mon point de vue, bon, je suis plutôt un peu pessimiste en ce moment, mais en fait, l'ampleur de la tâche, elle est vraiment... Moi, j'ai beaucoup de rêves avec ce projet. Enfin, j'ai l'impression que ça peut vraiment changer vraiment le système agricole et aussi la solidarité avec avec les personnes plus précaires. Enfin, et ça, c'est un projet très très ambitieux en fait, relocaliser l'alimentation au niveau national, enfin au niveau déjà de notre petit territoire. Mais si toutes les caisses de SSA, il y en a de plus en plus et qu'il y en a sur tout le territoire à terme, l'ambition c'est de vraiment pouvoir relocaliser l'alimentation. Et ça, c'est sûr qu'on n'y est pas du tout. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans le projet et qui va être aussi long à mettre en place, c'est le projet Faire Ensemble, et du coup qu'on soit vraiment tous dans OK, on se met ensemble, toutes les personnes qui mangent ont droit de donner leur mot à dire sur qu'est-ce qu'elles ont envie de manger, donc qui c'est qu'on conventionne, qu'est-ce qu'on veut vraiment sur notre territoire comme alimentation pour demain. Et ça, c'est chouette de pouvoir créer ces groupes de parole avec les habitants et les mangeurs et que tout le monde puisse participer à cette décision. Et ça, c'est aussi hyper ambitieux. Donc, vraiment de la démocratie participative où, enfin voilà, dans l'idéal, c'est que la caisse, elle soit de plus en plus grosse et que beaucoup de personnes puissent prendre part à ces décisions et fassent bouger cette grosse boule
cette grosse marmite
pour tous manger ensemble, ce qu'on veut. Voilà, mais...
Toi, Hugues, t'as un petit ressenti là-dessus, même peut-être sur l'aspect recherche, je sais pas si tu voulais rajouter des choses.
Ce qu'on peut voir, c'est quand même le foisonnement d'initiatives qu'il y a sur le terrain. Et du coup, ça, c'est vrai que ça appelle quand même des institutions à regarder ce qui se passe. Ça appelle des écoles aussi à venir sur le terrain. Donc, on sent qu'il y a quand même une dynamique qui est porteuse. Après, en toute humilité, il faut rester quand même sur quand même les personnes concernées par ce type d'initiative, ce type de militantisme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu d'ouvrir de plus en plus, d'élargir ce socle de la SSA. C'est vraiment une dimension qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec l'aller vers, le fameux aller vers des centres sociaux, et de dire bah, en fait comment on va rencontrer des personnes qui sont en dehors des cercles qu'on a l'habitude de côtoyer, et aussi comment on essaye d'apprendre à recueillir justement cette parole et à l'intégrer pour que le projet politique de la SSA soit adapté localement en fonction des habitants qui sont autour.
Eh ben, on va justement s'attarder juste après une petite musique sur cette SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation. On en a un petit peu parlé là en début d'interview, et du coup on va pouvoir définir chacun de ces termes et puis revenir sur ben voilà les premiers résultats, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que vous avez lancé cette caisse locale, et donc tout ça on va en parler juste après une musique. Et donc là, on va écouter Frémis le temps de las cerejas, de la mal coiffée, il frémit le temps des cerises. On écoute. Retour dans cette émission en direct, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Royan Vercors 93 FM. Nous sommes dans notre nouvelle émission appelée Micro-ondes, et ça tombe bien parce qu'on parle d'alimentation ce midi. Donc je le rappelle, j'ai en ma compagnie le collectif, l'association Le Courbouillon. Il y a Hugues, il y a Annabelle et il y a Mila. Et donc là, maintenant, on va parler de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Tu disais en début d'interview, Mila, qu'il y a une cinquantaine de caisses maintenant en France. Et bah, peut-être que ça vaut le coup de définir ce que c'est, cette sécurité sociale de l'alimentation, d'où ça vient et c'est quoi les grands principes de fonctionnement.
Oui. Alors d'abord, je vais définir quand même le terme démocratie alimentaire que j'ai utilisé tout à l'heure et qui est un peu le socle commun entre toutes ces initiatives, entre Glanage, c'est un peu le fil rouge, Glanage, Marché Trois Prix, Sécurité sociale alimentaire. La démocratie alimentaire est un peu ce socle commun qui est basé sur la volonté de empowerment, donc redonner le pouvoir aux citoyens et citoyennes sur leur alimentation et aussi de les faire participer de manière active et démocratique aux prises de décision qui pour le moment sont pas vraiment dans les mains des citoyens. Donc pour rebondir aussi sur la question que tu posais avant, pour moi les institutions font des petits pas en avant, mais c'est un peu normal aussi que vis-à-vis de cette vision un peu alternative, il y ait aussi un peu d'inertie. Mais voilà, donc l'idée c'est ça, de la démocratie alimentaire, c'est vraiment le socle commun de toutes ces initiatives. La SSA, la sécurité sociale alimentaire, se fonde sur trois piliers. C'est un peu reprendre l'idée de la sécurité sociale de la santé, qui est née il y a 80 ans et qui est née de petites caisses locales, un peu comme le fait maintenant la sécurité sociale alimentaire. Les trois piliers de la SSA sont donc l'universalité d'accès, un peu comme la sécurité sociale de la santé, donc que tout le monde ait accès à ce dispositif. Puis ensuite, le conventionnement démocratique, donc le fait de choisir de manière démocratique avec les citoyens et les citoyennes quel producteur, productrice, quel point de vente on a envie de conventionner, de faire entrer dans le dispositif sur la base de critères qui sont choisis démocratiquement, la qualité, la provenance, les modes de production, etc. Et puis ensuite, il y a la cotisation sociale. Donc, c'est pour pouvoir... en gros, c'est fondé sur un système de cotisation libre, basé sur les revenus, un peu comme la sécurité sociale de la santé. Donc, ceux qui ont des salaires plus élevés vont contribuer plus. Et inversement, ceux qui ont moins de moyens vont payer un peu moins. Cette cotisation, elle est mensuelle. Et ça donne le droit, peu importe combien on cotise. On peut cotiser 20 euros ou bien 130, c'est voilà, il y a souvent des petites marges, des grosses marges même, chaque caisse décide. Cette cotisation, je disais, donne le droit à une allocation de 100 euros par mois qu'on peut aller dépenser sur les produits, comme je le disais, conventionnés. Donc ces trois piliers-là sont vraiment ceux qui peuvent décrire au mieux, à mon avis, la SSA, mais vous pouvez trouver plein d'informations sur le site aussi de la SSA nationale sur ce socle de valeurs.
Et justement, cette SSA nationale, Hugues, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point historique, ou Annabelle, comme vous voulez, depuis quand est-ce que ça existe et comment ça s'est créé, d'où l'initiative est venue? Est-ce que c'est des citoyens? Est-ce que c'est des élus, des politiques?
Eh ben, alors je suis pas complètement au point sur l'historique, mais de ce que je sais, il y a eu les premières personnes à y avoir pensé, c'était en 2018-2019, c'était des élèves ingénieurs agronomes qui ont réfléchi à ce projet, en partant du constat que en fait l'agriculture, que beaucoup de gens, il y avait à la fois beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à manger comme ils voulaient, ce qu'ils voulaient et à leur faim, et parce que pour plusieurs raisons, et il y avait à la fois l'agriculture qui produisait beaucoup pour l'exportation, beaucoup dans, enfin, pas du tout de manière raisonnée par rapport aux besoins de la population, et que c'était complètement déconnecté. Et là, c'est un projet qui à la fois relie, qui permet d'assembler les deux, quoi. À la fois, ça redonne du pouvoir aux gens dans le choix de leur assiette, avec la solidarité financière et la prise de décision en commun. Et à la fois, ben, comme ça crée de la demande en produits de qualité et locaux, enfin on l'espère que les gens vont vouloir ça, et ben à la fois ça crée de la demande au niveau d'installation de nouveaux producteurs localement, quoi, pour fournir cette demande. Et nous, ben, à la ferme, on le voit par exemple là, depuis que la caisse a été créée en décembre, et ben en fait il y a 3 personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation qui jusqu'à présent venaient pas tellement chez nous, mais comme on n'est pas loin de chez eux et qu'ils ont quand même 100 euros par mois à dépenser, bah, ils se sont dit, bah, allez, on prend un panier à la ferme des Roussets tous les mois, bah, ça passe déjà quasiment 50 euros, qui sont faciles à recevoir. Et puis, en fait, après, ça les oblige un peu à changer leurs habitudes alimentaires, à cuisiner peut-être plus de légumes que d'habitude. Mais en tout cas, ça, pour l'instant, ils sont contents d'avoir eu accès à ça. Donc, si beaucoup de gens bénéficient de la SSA, on peut imaginer que ça pourrait permettre l'installation de nouveaux producteurs dans d'autres, en œufs, en fromage, en yaourt, en céréales, localement, quoi. Ça créerait des débouchés vraiment locaux pour des nouvelles installations. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce projet.
Et donc, comme tu le disais, vous avez lancé la caisse locale, donc la SSA Bourg-Isère, en novembre-décembre de l'année dernière. Et donc là, quelques mois après, bah, c'est aussi l'occasion de voir, bah, d'avoir des premiers retours. Alors, je sais pas si Mila, tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment ça s'est installé. Est-ce que facilement vous avez trouvé le nombre de cotisants qu'il fallait, de trouver cet équilibre, en fait, parce que j'ai l'impression que ça repose quand même sur une sorte d'équilibre de personnes qui vont cotiser plus et d'autres un peu moins. Comment ça s'est passé? Ou Hugues?
Bah non, ouais. Mais peut-être juste faire aussi un petit retour en arrière sur le fait que, en fait, ce projet, il a plutôt 2 ans de travail derrière
le
lancement du 15 novembre, que ça part aussi des fermes. Ça, c'était important de le redire. Et tout à l'heure, tu soulignais, Annabelle, que c'est la conf qui porte ça localement et notamment les Sablières qui ont vraiment amené cette question au centre de la table, là, sur plusieurs collectifs. Et suite à ces 2 ans de travail, donc un peu le départ, c'est 30 foyers qui, aujourd'hui, sont dans la caisse. Il y a plusieurs personnes qui sont encore sur liste d'attente puisque en fait on avait besoin de sécuriser pour savoir si on était capable de gérer ces flux financiers, puisque aujourd'hui ce qu'il y a aussi d'intéressant à redire, c'est que c'est plus de 3000 euros qui tous les mois sont redirigés vers le territoire. Donc dans la question de reterritorialiser une partie de l'alimentation, c'est ça un des effets qui est produit. Il y a effectivement un choix qui a été fait pour le démarrage aussi d'avoir un équilibre de caisse. C'est pas le choix dans toutes les caisses. Il y a des fois des subventions publiques qui viennent abonder certaines caisses. Nous, il y a vraiment un travail qui a été fait d'équilibre. Donc il y a un nombre de personnes qui s'équilibrent entre des gens qui ont moins de moyens et des gens qui ont plus de moyens. Donc ça, c'est vraiment un arbitrage politique qui a été choisi au départ. Et là, il y a l'idée, donc au 30 mai, on fera un événement le 30 mai pour les 6 mois de la caisse. Et à ce moment-là, peut-être qu'on tirera les vrais premiers bilans, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que là, sur le premier temps de cette caisse, il y a surtout eu un travail de formation, d'auto-formation qui a permis justement de fonder ce collectif, ce comité citoyen qui est aux manettes aujourd'hui. Il y a un transfert qui s'est fait entre des gens qui étaient à l'origine sur le projet et maintenant ce comité citoyen qui est en train de vraiment porter les décisions pour sa propre trajectoire, quoi. Donc, est-ce qu'on ouvre le comité citoyen? Est-ce qu'on choisit des nouveaux points de vente? Ça, c'est les questions qui sont au cœur.
Et moi j'avais une question pour toi Annabelle, parce que justement tu disais que tu faisais partie de ce comité citoyen et Mila tu disais que ça, dans les 3 piliers de la SSA il y avait le conventionnement démocratique. Est-ce que le comité citoyen il vient répondre à ce pilier là? Comment ça marche et c'est quoi son rôle?
Bon, alors le comité citoyen, bon, pour l'instant il est très récent, donc on a fait quand même quelques réunions, on n'a pas encore fait vraiment les nouvelles décisions de nouveaux points de vente à conventionner, donc son but c'est de garder les valeurs de la SSA, les valeurs qu'on a dit au niveau national là, et c'est aussi donc d'être garant de ces valeurs et après de déléguer des groupes de travail qui vont décider les critères de conventionnement localement pour essayer d'élargir le nombre de points de vente et de producteurs chez qui on pourra se fournir.
Donc aujourd'hui, il y a combien de personnes à peu près dans ce comité?
Eh ben, en ce comité, on voulait qu'il représente quand même à peu près la moitié des gens de la caisse.
Ah ouais,
donc là, ça va évoluer. Pour l'instant, on a une quinzaine de personnes, mais si la caisse grossit, on aimerait qu'on soit encore plus nombreux à prendre part au comité. Pour l'instant, on a des réunions au rythme de 2 samedis matins par semaine. deux samedis matin par mois. Et là, il y a eu pas mal de sessions de, bah, comme on disait, de d'auto-formation où on a eu des intervenants sur justement la prise de décision en collectif, la gouvernance, comment on arrive à s'organiser entre nous, à faire des petits groupes et à... Là, on a juste fait les premières réunions pour s'occuper de la gouvernance. Et après, on a eu des intervenants aussi sur, comme le disait Hugues, sur la précarité alimentaire et sur l'histoire de l'agriculture pour avoir un peu un socle de connaissances de base pour permettre de aussi prendre les décisions plus tard. Mais ça va être le but du comité citoyen, c'est aussi de faire parler du projet. Pour tous les habitants, que tous les habitants du territoire soient au courant que ça existe et qu'on puisse intégrer des nouvelles personnes à plus long terme et que, voilà, sur les différents projets aussi annexes. Pas que de la caisse, mais potentiellement, on pourrait trouver des glaneurs, on pourrait trouver des personnes qui participent aux cantines, enfin, à d'autres projets, quoi.
Et là, j'ai une question, alors qui est un peu ouverte, je sais pas qui va pouvoir y répondre, mais combien. De partenaires, est-ce que vous avez réussi à conventionner pour cette SSA, donc Bournisère? Tout à l'heure, tu parlais des Sablières, Hugues. Là, on parle de la ferme des Roussets, qui est aussi partenaire, donc plutôt Saint-Jean. Quel territoire est-ce que ça représente et combien de producteurs, productrices sont partants avec vous?
Alors, pour l'instant, il s'agit d'une vingtaine de producteurs, voire points de vente. Voilà, donc il y a... je dirais le plus à l'est, c'est Terroloco. Et puis voilà, il y a des producteurs à la fois du côté sud de Grésivaudan, à la fois du côté royen. Oui, jusqu'à Saint-Hilaire, je dirais.
Oui, avec les Cancières, par exemple, qui est un magasin aussi qui est conventionné. Donc ça va vraiment sur un très grand territoire entre Saint-Lathier, tu l'as dit, Notre-Dame-de-Lozier et Saint-Jean-Royan.
C'est ça, et le triangle. Au niveau de l'offre alimentaire, est-ce que vous avez réussi à avoir autant des légumes, des œufs, du pain, des céréales? Quel type d'offres on peut retrouver?
Actuellement, c'est vraiment un premier conventionnement qui a été fait par l'équipe qui avait porté le projet. Donc ça répond pas tellement à une diversité de produits. C'est essentiellement les gens qui se sont portés tout de suite pour être conventionnés. Donc c'est essentiellement des fermes avec du maraîchage, avec de l'arbo, donc des fruits, avec les Cancières quand même, qui est le point de vente qui a le plus de diversité de produits. Mais c'est vraiment le travail à venir, hein. C'est vraiment de dire où est-ce qu'on va chercher des nouveaux points de conventionnement et avoir peut-être la totalité des courses qui peuvent être effectuées à ces endroits-là. Là, aujourd'hui, c'est vraiment quand même des fermes.
Et justement, peut-être Mila, je ne sais pas si tu auras la réponse à cette question, mais donc là, on parle du Royan et du Sud Grésivaudan. Est-ce que dans d'autres caisses, justement, on arrive à couvrir tous les besoins d'un ménage en termes d'alimentation? Est-ce qu'il y a des caisses qui, peut-être, ont plus d'ancienneté et ont plein d'offres différentes?
Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de caisses et autant de variétés. Je peux juste dire qu'il y a un point très fort de cette caisse, c'est qu'elle est très rurale. Donc, elle est très en lien direct avec les producteurs. Il y en a plusieurs comme Annabelle qui sont aussi membres du comité citoyen. Il y en a qui sont venus nous faire des formations justement sur les enjeux agricoles à la fois globaux et locaux. Donc je dirais que c'est un vrai point fort, et aussi en termes d'offres alimentaires, cela permet d'avoir des producteurs qui produisent pas mal de produits différents, voilà, et qui peuvent répondre à tous les besoins. Sauf que il y a bien sûr l'enjeu de la mobilité, qui est un vrai enjeu et qui donc guide un peu nos réflexions maintenant sur le conventionnement. Qui est-ce qu'on conventionne? Est-ce qu'on essaye de justement se baser aussi sur l'accessibilité géographique des points de vente, parce que certains offrent beaucoup de produits de très bonne qualité, mais ne sont pas accessibles, par exemple, sans voiture aux ménages les plus précaires, qui sont aussi vraiment celles que nous, on essaye d'aider, ou en tout cas de faire participer à ce projet. Donc, ce serait dommage de les éloigner du projet à cause de ces problématiques d'accessibilité géographique. Donc, voilà, le Royan est à la fois très rural et très en lien avec les producteurs, mais à la fois un territoire très étendu. Les enjeux de mobilité sont centraux. Voilà.
Et moi, je voulais vous poser un peu une question. On va se diriger vers la fin de cette interview. Mais on a la chance de t'avoir avec ta double casquette, Annabelle. Je voulais avoir le point de vue de ta casquette paysanne, est-ce que tu aurais des petits retours d'expérience à nous faire en tant que partenaire de cette SSA, ou peut-être que tu sais pour d'autres fermes partenaires, qu'est-ce que ça change pour vous, comment est-ce que ça s'inscrit dans votre quotidien, quoi?
Bah, nous, ça, c'est assez léger, hein. On a une affiche sur la porte où on a marqué ce point de vente est conventionné par la SSA okay. Bourg Isère. Mais sinon, ça peut que nous amener potentiellement plus de clients, quoi. Des clients qui n'avaient pas l'habitude de venir, qui se disent, ah, bah, là, il y a un point de vente conventionné, je vais aller voir ce qu'ils vendent. Et après, concrètement, c'est assez simple. Bah, les gens nous payent quand même, les produits, donc les gens qui font partie de la caisse qui viennent acheter, ils payent à la fin, sauf que nous on leur donne un coupon où il y a marqué comme un ticket de caisse, quoi, et à la fin c'est les personnes eux-mêmes de la caisse qui réunissent leurs coupons et qui vont à la fin du mois, donc ici c'est au centre social La Base pour Saint-Jean, se faire rembourser du montant de leurs courses. Donc nous ça fait vraiment aucun travail supplémentaire, on garde juste le double du coupon au cas où la personne perd le coupon, et pour l'instant c'est tout.
Ouais, donc ça reste assez léger comme implication. Et est-ce que vous avez des points de vue de bénéficiaires qui vous ont été retournés? Donc là, c'est un peu tôt. Vous le disiez, vous allez faire un bilan le 30 mai pour les 6 mois de la caisse. Mais voilà, si vous aviez des retours de bénéficiaires. Et peut-être aussi terminer sur vous, en tant qu'organisateur, organisatrice, membre de cette association, est-ce que vous trouvez que ça se met en place de manière assez fluide? Comment est-ce que... Quels seraient vos premiers retours, quoi, un peu à chaud?
Alors, on n'a pas tellement, effectivement, des retours des gens qui sont bénéficiaires de la caisse, même si on se côtoie tous et toutes, et du coup, il y a ces instants du comité citoyen. Donc, pour l'instant, c'est plutôt très positif. Effectivement, sur les vrais retours à analyser, on le fera plutôt tous ensemble le 30 mai. Et sur l'organisation... C'est fluide comme un collectif d'habitants et d'habitantes. Ça prend du temps long, mais c'est ça la démocratie. Je crois que ça prend du temps. C'est juste une question centrale pour nous de dire, en fait, c'est d'abord le processus qui est important avant la finalité. C'est d'apprendre à faire ensemble. Je pense que c'est vraiment ça qu'on cherche tous et toutes.
Trop chouette. Et c'est quoi justement les prochaines étapes et les perspectives pour 2026? Est-ce que à un moment donné, vous allez peut-être pouvoir réouvrir à d'autres bénéficiaires? Quels sont un peu vos prochains objectifs?
C'est justement les questions qu'on se pose la suite du 30 mai. Donc j'en profite pour vous inviter tous et toutes à notre événement qui sera à la fois un moment de réflexion ouvert à tous et toutes, je le répète, et à la fois un moment festif et convivial pour célébrer aussi ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent. Donc voilà, le 30 mai, ça va être fructueux en termes de réflexion pour la suite. Oui, on aimerait bien ouvrir la caisse à des nouveaux cotisants, cotisantes.
Et ça va avoir lieu où, du coup, ce 30 mai, cet événement?
Eh bien, on a la chance d'être accueillis par la commune de Beauvoir-en-Royan, qui nous fait le plaisir de nous laisser l'accès à la salle des fêtes.
Super, c'est pile à mi-chemin entre le Royan et le Sud Grésivondan, ça tombe bien. Et sur les ondes de Radio Royan Vercors, on se ferait un plaisir de rappeler cet événement, de détailler aussi le programme. Vous le retrouverez dans notre agenda culturel, évidemment. Et juste avant de vous quitter, je voulais savoir, donc, est-ce que vous avez un site internet, des contacts à nous partager, s'il y a des personnes qui sont curieuses, qui veulent en apprendre plus sur votre association et peut-être vous rejoindre?
Oui, il y a déjà le site internet donc du Cours Bouillon, donc c'est http://lebouilloncollectif.org. Je peux vous le décrire, mais vous pouvez surtout trouver un peu tous les contacts en discutant avec les gens autour de vous, avec le centre social de La Paz, avec Terre Locaux, avec les fermes. Je pense que tout le monde est un bon relais pour vous faire arriver tout simplement auprès du collectif.
Eh ben super, merci beaucoup à vous trois pour cette interview. Merci d'être venu à notre studio en direct. C'est pas un exercice facile, mais ça a été super. Donc je le rappelle, au micro, il y avait Hugues, Mila et Annabelle. Vous faites tous les trois partie de l'association du Cours Bouillon. Et donc on mettra en ligne cette interview sur notre site internet. Et puis vous la retrouverez en rediff demain à 19h, demain vendredi. Merci beaucoup à tous les
merci.
Trois. Et on va se quitter sur... une chanson, on va écouter Croquetas de Ivan et la Jeanne Occasionnée. C'est une recette de cuisine mise en chanson. Il y a un peu d'humour dedans.
Je vais vous chanter une recette de cuisine écrite par Alberto Herraiz et publiée aux éditions de l'Épure en 2007 à Paris. Le livre s'appelle « Croquetas, 10 façons de les préparer ». De beurre salé, 250 g de farine de blé, 500 g de fromage torta del casar, 200 g de châtaigne grillée, pelée et coupée en petits dés. Finement émincé, une cuillère à café de noix de muscade, 30 g de sel, poivre blanc moulu. Chapelure, huile de friture. Faites cuire le fromage dans le lait avec la noix de muscade, le sel et le poivre. Une fois bien chaud, retirez du feu et mixez le tout. Réservé, couvert. Dans une grande casserole, faites cuire à feu doux les oignons dans le beurre sans les brunir. Lorsqu'ils sont cuits, ajoutez la farine. Faites revenir jusqu'à coloration. Remuez énergiquement.
Temps fort et rendez-vous incontournable, c'est l'heure de l'agenda. Une sélection non exhaustive de sorties sur le territoire du Royan-Vercors et du Sud Grésivaudan, concoctée par la rédaction.
Pour plus de propositions, n'hésitez pas à consulter l'agenda en ligne des offices de tourisme Vercors-Drôme et Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté.
On commence cet agenda culturel avec la Cordo qui se trouve à Romans. C'est une salle de musique actuelle. C'est la cité de la musique à Romans-sur-Isère et qui propose très régulièrement et ben pas mal de concerts dans des styles assez éclectiques. Et ce vendredi 10 avril, et bien c'est un bal néo-trad qui vous est proposé à partir de 20h30. Il y aura deux groupes qui seront là pour animer cette soirée. Il y aura Polydor et La Ciguë. La Ciguë, c'est une folle messe et un bal des émotions. C'est un groupe qui prend ses racines dans les chapelles abandonnées du Berry et qui revisite les danses folkloriques entre chants intemporels et bourrées endiablées. Polydor, quant à lui, donc c'est un duo de musique électronique qui marie des musiques traditionnelles berrichonnes, là encore, et du Nord-Afrique. Et donc, si vous allez à la Cordeau ce vendredi 10 avril, eh bien, vous pourrez vivre cette expérience sensorielle et visuelle unique. C'est une invitation à la transe collective. Pour cette soirée, donc, c'est les tarifs Cordeau habituels. Si vous avez la carte Cordeau, c'est à 13€, 18€ en tarif réduit et 15€ en tarif réduit. Donc, il y a moins 2€ sur place. Et donc, moi, je vous propose d'écouter, pour vous donner envie d'y aller, d'écouter un morceau de la Cigu. C'est un morceau qui s'appelle Barbare et ça a été enregistré en live. Alors, on écoutait un extrait parce que ça durait 5 minutes et je vous en propose 3 minutes. C'était un morceau de La Cigu, un morceau qui s'appelle Barbare et que vous allez pouvoir retrouver demain, vendredi 10 avril, à La Cordeau à Romans-sur-Isère. La Cordeau, c'est la salle des musiques actuelles et donc ce concert sera en compagnie de Polydor et c'est un bal néo-trad qui vous est proposé pour toute cette soirée. Autre proposition d'atelier, cette fois-ci pour samedi. C'est un atelier qui va avoir lieu à la Clé des Sables, cette ferme collective qui se trouve à Saint-Lathier. C'est les ateliers de Marina. Donc ces ateliers, ils sont mis en place à partir de ce mois d'avril et ils vont avoir lieu jusqu'à décembre, donc c'est tout nouveau. Donc ce sont des ateliers thématiques où Marina vous transmettra sa passion des plantes, et donc il y a une approche sensorielle au jardin et une approche scientifique à l'atelier. C'est 2 séances par mois et ça dure 3 heures. Et donc la séance de ce samedi 11 avril, ça va avoir lieu à 9h30. C'est un atelier qui s'appelle Les mains dans la terre. Autour des menthes, du thym, du basilic, laissez-vous enivrer par ces belles aromatiques. Et donc il y aura évidemment une visite du jardin et de la pépinière, une présentation ludique des différentes techniques de multiplication végétale, de la mise en pratique évidemment, et puis vous repartirez avec vos godets qui seront remplis. Et à noter que les enfants sont bienvenus à cet atelier. Et donc cet atelier, il faut réserver évidemment. C'est aromatique au pluriel @laclédessables.com. Vous retrouverez évidemment cette information sur leur site internet. C'est une ferme qui a un site internet, figurez-vous, qui est bien fourni. Et côté tarif, donc c'est 20 euros par personne en tarif plein. Donc c'est un tarif solidaire, 10 euros en tarif soutien. Voilà, toutes les infos et les contacts de Marina sont à retrouver en ligne sur le site internet de la Clé des Sables. Demain, samedi 11 avril, il y a également une activité pour les enfants qui est proposée à la bibliothèque de Saint-Laurent en Royan. Une activité qui va avoir lieu de 14h à 17h sur le thème de Pâques, évidemment. Il y aura des jeux de poules et de lapins, des activités manuelles, des coloriages, ainsi qu'une chasse aux œufs pour les retardataires. Il y aura également un goûter qui sera offert et tout ça, c'est gratuit. Et puis dimanche, cette fois-ci, il y a deux activités qui vous sont proposées sur le territoire. Tout d'abord, à Vassieux, en Vercors, si vous allez vous balader sur le plateau du Vercors, profitez-en pour aller aux Espelines, cette librairie qui fait également espace d'exposition et petit café. Eh bien, elle accueille ce dimanche à 18h Isabelle Cacera, qui va faire un temps de lecture et d'échange autour de son livre « Empreinte ». Empreinte, donc, c'est un abécédaire sensoriel, un voyage intime qui rejoint l'universel. Et c'est à lire comme on feuillette un album, de manière fragile et vibrante. Donc ce temps d'échange et de lecture, il sera suivi d'un repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent. Tout ça, évidemment, c'est gratuit. Et c'est de 18h à 19h30 aux Espelines à Vassieux ce dimanche. Et puis on termine cet agenda avec un spectacle qui va avoir lieu cette fois-ci à Saint-Just-Clé, dimanche à 15h30. Ça s'appelle Le K2. C'est un spectacle théâtral comique par la troupe de l'association Télème et c'est organisé par l'association La Joie de Vivre. Ça va avoir lieu à la salle des fêtes de Saint-Just-Clé. Et figurez-vous qu'il y a une formule cabaret adulte qui est à 10 euros par personne et c'est gratuit pour les enfants. Il y aura des boissons et des petits gâteaux qui sont compris. Voilà pour cet agenda culturel de cette fin de semaine dans le Royan, le Vercors et le Sud Grésivaudan. Et voilà, on se dirige vers la fin de cette émission en direct, cette nouvelle émission qu'on vous a proposée aujourd'hui sur les ondes de Radio Royan Vercors. Ça s'appelle Micro-ondes. C'est une émission en direct qu'on vous propose donc chaque jeudi à midi jusqu'à 13h, en rediff le vendredi à 19h. Et donc l'idée, c'est de parler de l'actualité du territoire avec des invités à notre micro. Et en complément, donc une petite chronique quand on a le temps et un agenda culturel. Si vous êtes une association, si vous êtes habitant-habitante du territoire, si vous avez des choses à raconter, eh bien sollicitez-nous pour venir dans ce créneau. L'idée, c'est que ce soit vraiment porte ouverte du studio à Saint-Jean-en-Royan. Notre mail, c'est radioroyan@gmail.com. Et puis, on a également un numéro de téléphone qui est disponible sur notre site internet. Cette émission, d'ailleurs, on va la mettre en ligne très prochainement sur notre site. Et puis, vous pourrez retrouver également les interviews en aparté. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce direct. Et moi, je vous souhaite une belle après-midi sur les ondes de Radio Royan Vercors 93 FM.
Micro-ondes, l'émission en direct de Radio Royan Vercors. À écouter chaque jeudi de midi à 13h et en rediffusion le vendredi soir à 19h. Invité au micro, actu local, agenda culturel et coup de cœur de la rédaction. Micro-ondes, promis, c'est pas du réchauffé.